les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Les groupes Medvedkin. Le nom fut choisi en hommage et comme l'affirmation d'une filiation avec le cinéaste soviétique Alexandre Medvedkin qui, dans les années 30, sillonnait l'URSS à bord de son ciné-train. En 1967, alors que vient de naître le collectif Sloan, Société pour le lancement des œuvres nouvelles, Chris Marker tourne avec Mario Marais, À bientôt j'espère, un film sur la grève de l'usine Rodia de Besançon. À la faveur de ce tournage, avec le soutien d'autres réalisateurs et techniciens, est lancée la dynamique qui verra naître dans la région les groupes Medvedkin, collectif d'ouvriers des usines Rodia et Peugeot, qui, formés à la prise de vue et de son, filmeront eux-mêmes leurs conditions de vie et de travail, leurs luttes et leurs actions éducatives et culturelles. Bien des années plus tard, en 2004, Yaël Mandelbaum rencontrait les anciens des groupes Medvedkin qui racontaient ce qu'avait été leur histoire du côté de Besançon et de Sochaux de 1967 à 1974. Outre la voix de Chris Marker, on entend ici celle des anciens des groupes Georges Binetruy, Henri Traforetti, Christian Corouge, Suzanne Zédé et Annette Paléo, et la voix du réalisateur et écrivain Bruno Muel, très actif et très investi aux côtés des groupes Medvedkin.
Surpris par la nuit.
Et puis un jour de 1971, à Paris, tu nous avais tout raconté. Tu avais filmé les débats entre ouvriers, armé bien sûr de ta bonne conscience socialiste, mais sans jamais tricher avec l'image.
C'était dans le tombeau d'Alexandre, hommage posthume de Chris Marker à Alexandre Medvedkin, qui, avec ses compagnons, ont fait des films, circulant avec leur ciné-train pendant plusieurs mois à travers toute la Russie de la guerre civile, filmant paysans, ouvriers, mineurs, allant là où il se passait quelque chose et projetant les films dans la foulée aux protagonistes pour les libérer, pour se libérer, plein d'un enthousiasme révolutionnaire pour le meilleur et pour le pire. Et du cinéaste russe mort en 1989 au groupe Medvedkin des années 70, il y a Marker encore et quelques autres. Une poignée de réalisateurs, de techniciens et quelques dizaines d'ouvriers des usines Rodia Seta de Besançon et Peugeot de Sochaux, qui, comme l'écrit Muel, ont décidé à cette époque-là, qui n'est justement pas n'importe laquelle, de consacrer du temps, de la réflexion et du travail à faire des films ensemble.
Dis-moi Antoine, pourquoi c'est si cher le laboratoire ?
Parce que le cinéma est un instrument de classe, Michel.
Voilà. Alors ça, il faut bien que c'est blanc, hein.
Le cinéma est un instrument de classe. Donc, le cinéma, on sait que c'est une arme terrible. Donc il ne faut pas que tout le monde puisse s'en servir.
Ah, nous, on s'en sert.
Nous, on s'en sert.
On fait la répétition.
On fait de la guérilla.
Ouais. Moi je dirais qu'aujourd'hui on ne fait pas tellement de la guérilla, c'est plutôt de l'underground quoi. L'underground. Tiens, donne-moi un peu la caméra, c'est toujours les opérateurs qui ont, qui ont les caméras. Tu vois? Ah! Ah! Digling, 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 digling. Le petit coup de temps qui tourne, c'est beau.
Bruno Muel, comment parler des groupes Medvedkin? Comment vous avez commencé à vous lancer dans cette aventure-là?
Je crois que c'est par Mario Marais. C'est un personnage. son histoire est magnifique parce qu'elle correspond bien à l'esprit des groupes Medvedkin. Il était, c'est un grand résistant déjà. Ensuite, il était radio et il est parti aux expéditions polaires Paul-Émile Victor. Et il a fait une saison en Terre Adélie. Une saison, c'est un hivernage complet. Et le cinéaste de l'équipe est mort. Il n'avait aucun moyen, il n'y avait pas d'hélicoptère pour venir les chercher, etc. Et Mario, qui était radio, a vu la caméra, il a dit « mais ça ne doit pas être très compliqué de s'en servir ». Il l'a démonté, il l'a remonté, il a tourné un film sur les pingouins. Et ce film a eu la Palme d'Or du court-métrage, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, au Festival de Cannes l'année suivante. C'est comme ça qu'il est devenu cinéaste. Et au fond, ça correspond bien à ce truc d'improvisation, de bouleverser les gens, enfin de bouleverser la hiérarchie aussi, qui était dans nos idées. Mario Marais, c'est par lui que j'ai connu Chris Marker. Et j'ai travaillé sur Loin du Vietnam, qui était ce film collectif qui a fait que nous sommes tous connus entre nous, techniciens, qui avaient envie de faire changer les choses, quoi. Disons, plus ou moins révolutionnaires, utopistes, tout ce que vous voulez. Et ensuite, quand Chris et Mario ont lancé l'idée du film « À bientôt, j'espère », ils m'ont demandé d'aller filmer une manif à Besançon pendant la grève, en 67.
Mars 1967, la grande grève dans le vocabulaire rodien. Grève originale par sa durée, un mois entier, par sa forme, l'occupation d'usines oubliée depuis 1936, mais surtout par cette idée continuellement reprise que le déséquilibre lié aux conditions de travail se traduit par un déséquilibre de toute la vie, que nulle augmentation de salaire ne suffirait à compenser, et qu'il ne s'agit pas de négocier à la façon américaine son intégration dans une société dite du bien-être, dans une civilisation dite des loisirs, mais de remettre en question cette société, cette civilisation elle-même. Et les résultats tangibles de cette grève, ce n'est pas 3 ou 4% d'augmentation obtenue, c'est l'éducation d'une génération de jeunes ouvriers qui ont découvert dans l'identité de leurs conditions, l'identité de leur lutte.
La Rodia, c'est là.
Voilà. Donc tu vois, c'est tout à l'abandon.
Henri Traforetti.
Alors que ça a eu une vie, c'était une fourmilière, hein, puisqu'il y avait 3500 personnes qui travaillaient dans cette entreprise, dont 1200 en équipe, hein, qui travaillaient en 4-8. Voilà. Et le fer de lance de la lutte, c'était les travailleurs des 4-8. Et c'était extrêmement dur et pénible. À l'intérieur de cette usine, tu avais 32 000 moteurs qui tournaient en continu. 32 000 moteurs, c'est la première chose que tu faisais quand tu rentrais dans les escaliers, c'était le moteur. Tu entendais déjà les bruits des moteurs, si tu veux. En plus, après, c'était l'humidité. C'était un endroit très chaud. Hein, on avait tous une côte, et sous la côte, on était à poil. Donc, c'est un endroit très chaud, très humide. Donc c'était difficilement supportable, si tu veux. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on produisait à la Rodia Ceta ?
Il y avait du fil tergal, du nylon. Donc les tirages, eh bien, on étirait le fil. C'est-à-dire qu'avec un petit morceau qui faisait 1 mètre, eh bien, on faisait 5. Hein, donc tu vois, le fil était étiré et mis sur des copses. Hein. Et puis avant, il y avait la production du fil, c'est-à-dire les filatures. Un endroit où le polymère arrive par le haut, passe dans un filtre, si tu veux, et sort en fil. Sur des bobines, d'ailleurs on le voit très bien dans le film « À bientôt j'espère », il est renvidé sur des bobines, avec des gestes mécaniques, tout dans la main, si tu veux. Et on n'a pas le temps, puisque c'est très continu. En plus, c'est une entreprise où tout est policé, c'est fliqué. Interdit de s'asseoir, interdit de fumer, interdit de parler, interdit. Les grèves ont commencé en 65, 66, 67. Hein, tout n'est pas arrivé en 67, au moment de la fameuse grève de 50 jours. C'est arrivé avant. Mais tu le vois dans le film de Chris Marker, on voit des manifestations. Et on voit que la ville dans son entier, si tu veux, était de notre côté. C'était extrêmement, extrêmement fort. Au niveau Rhône-Poulenc, il faut savoir qu'il y avait une syndicalisation qui était extrêmement importante dans cette entreprise, puisqu'on avait à peu près 400 à 500 syndiqués.
On est à l'entrée.
Et là, on a la place, la fameuse place, où tout se déroulait, c'est-à-dire toutes les prises de parole, se faisaient ici. Été comme hiver, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, tout se passait ici. Voilà.
Donc là, les prises de c'est... vue, voilà. Là, bientôt, j'espère.
Voilà, d'ailleurs, ça commence, le film commence là. Hein, la caméra est positionnée de façon à montrer la vente de sapins.
C'est Noël.
C'est Noël, donc tout se passe. Tout
on
se
vend
passe
des
là.
Sapins devant l'usine.
Voilà, devant l'usine.
Et il y a un jeune syndicaliste qui aile ses camarades à l'entrée, voilà. Et qui leur demande de se grouper parce qu'il a des nouvelles à leur donner.
Voilà, c'est tout à fait ça.
Alors vous sortiez de l'usine
Eh bien, on sortait là, on sortait, et là, on avait une bibliothèque qui comptait 3000 ouvrages. Et puis, il y avait l'animateur de la bibliothèque qui s'appelait Paul Seb, qui va devenir le fer de lance de tout ce qui va se mettre en place par la suite. Un exemple du poids culturel, chaque fois que Berchou et Paul Seb, etc., faisaient venir des artistes à Besançon, comme Colette Marie, Magny, Chérault, une multitude d'autres, eh bien, on va vendre des billets. Et on peut, à un moment donné, vendre 400 places, c'est-à-dire tu as 400 prolos de la Rodia qui se retrouvent au théâtre pour écouter Colette Magny. Loin du Vietnam, Joris Ivens, etc. Loin du Vietnam, on remplit la salle de Rodia.
On ne nous tuera pas comme ça. On luttera le temps qu'il faudra. Au nom de la liberté, camarades, nous ne pouvons pas accepter la division jusqu'à maintenant. Nous avons décidé de la grève ensemble. Nous avons exposé nos revendications ensemble. Nous sommes allés discuter avec la direction ensemble. Nous devons continuer notre lutte ensemble.
La grève de Rodia n'est pas un échec parce qu'ils veulent donner un Noël à leurs gosses et ils sont obligés d'aller travailler. Et ils savent qu'on a raison. 10 000 travailleurs, on peut estimer à 10 000 travailleurs, ont perdu une journée sans... Comme ça, là, c'est pas un exploit, ça, non, c'est ça la solidarité, c'est quelque chose de formidable. Je sais pas, moi, comparé à ce que nous dit Guy Lux ou à ce que nous dit France Dimanche, c'est quand même formidable, c'est une autre gueule, non? C'est pas de la culture, ça? Mais je veux dire aussi aux patrons qu'on les aura, c'est sûr, parce qu'il y a cette solidarité et qu'eux ne savent pas ce que c'est. On vous aura, on vous en veut pas encore terriblement à ceux qui se prennent un peu pour des patrons et qui ne le sont pas, mais ceux qui détiennent le capital, on vous aura, c'est la force des choses, c'est la nature, et à bientôt, j'espère.
Donc le film a été fait, Chris Marker revient un jour nous le présenter, grosse déception, c'est pas ce qu'on attendait. On n'attendait pas du tout ce genre de film. Alors, discussion après le film, enregistré par Antoine Bafonti, qui avait toujours son truc ouvert, et sorti une discussion, mais alors à tout casser, à abattre Chris Marker, ouais. Qui a été très très... très déçu et très satisfait à la fois.
Je pense que si les travailleurs de Rodia ont vu ça, et que si le réalisateur a voulu vraiment exprimer, alors vraiment il s'en est incapable. Si vraiment il a voulu exprimer ce que ressentent les travailleurs de Rodia et le besoin qu'ils ont, je pense que le réalisateur s'en est incapable. Je le dis crûment, je le dis tel que je pense, mais je pense plutôt, je le dis crûment aussi, que là, il y a simplement une exploitation des travailleurs de Rodia par des gens qui, paraît-il, luttent contre le capitalisme.
Et puis nos solutions, parce qu'on a quand même des solutions, là, elles ne sont pas abordées du tout. Quelle société on voit, on n'en parle pas. On dit qu'on est communiste, les communistes apparaissent comme des rigolos, là, je crois. Enfin, plus ou moins, quoi, ils mènent des grèves, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Qu'est-ce qu'on va faire?
Moi, je crois que, tout simplement, je le dis franchement, Chris est romantique. Il a vu les travailleurs, l'organisation syndicale, avec romantisme. Et il y a l'absence des organisations syndicales, parce qu'une grève, la préparation de l'action, on la voit sur le tas, là, elle est un peu improvisée. Mais c'est des heures et des heures de discussion, c'est une bataille d'idées au sein des conseils syndicaux qui sont très longs. Et c'est ça, finalement, l'âme de la classe ouvrière, ce sont ces organisations.
Mais je crois qu'on serait même 10 000 fois plus malin et moins romantique, et qu'on serait quand même limité par cette espèce de réalité cinématographique qu'on expérimente tout le temps, qu'on aille chez les pingouins ou chez les ouvriers, que finalement on ne peut exprimer réellement que ce qu'on vit. Et quel film que vous souhaitez, finalement, mes enfants, c'est vous qui le ferez.
À Paris, les états généraux des techniciens du cinéma se réunissent et disent « Partons en Provence ». Et puis essayons d'armer les gens pour en faire des cinéastes travailleurs, etc. Donc tout est repris au mot là aussi, et on voit, en accord avec le CCPPO, on voit descendre une multitude de techniciens du cinéma, réalisateurs, photographes, preneurs de son, etc., qui viennent à Besançon le samedi, le dimanche, en dehors des heures du travail, et on commence notre phase d'apprentissage. Première des choses, eh bien, on apprend à servir d'un appareil photo. Pourquoi l'appareil photo ? Parce que c'était pour nous aider à avoir déjà un autre regard sur le monde qui nous environnait. Je ne sais pas si tu vois, moi, le premier jour où j'ai eu un Pentax dans les mains, j'en aurais presque pleuré. Je n'avais jamais eu d'appareil photo, moi, dans mes mains. Je veux dire, des appareils de photo de cette valeur, parce qu'un Pentax, à l'époque, ça coûtait la peau des fesses. Donc, quand j'avais pris ça dans mes mains, j'en aurais presque pleuré, tellement j'étais imprégné de la beauté de l'appareil, mais en même temps de cet accompagnement, cette personne qui te prête un Pentax pour pouvoir faire des choses avec, et qui te dit « t'es responsable, maintenant regarde, vas-y ». On était transformés. Et après, une fois qu'on a travaillé sur la photographie, on est passé à la caméra.
Donc, ils sont arrivés avec une Beaulieu, une Super 8, que Jean-Luc Godard nous a acheté, une Beaulieu qu'il nous a prêté. Et là, on a commencé à filmer. Filmer n'importe quoi, on filmait des trucs. Et puis, moi, l'autorité me suis emparé de la caméra. Parce que je rentrais d'Algérie, j'avais une autre caméra dans la main. C'était une mitraillette. C'est une arme. Cette caméra, pour moi, c'était aussi une arme, dans le sens contraire. Donc, si vous vous rappelez des AVU à Bête, j'espère, il y a Suzanne Zedek, vous allez voir, qui dit qu'elle voudrait militer, mais qu'elle ne peut pas. D'ailleurs, c'est son mari qui freine à 100% pour pas qu'elle milite. C'est presque la fin du film. Hein. Et ces rushs-là, on les avait. On sait, par le mari, parce que son mari travaille avec nous, il me dit « Ah, ça y est, ma femme démarre dans le militantisme, ça lui plaisait pas trop. » Et puis elle va faire où elle travaillait, chez Yema, elle me dit « elle prend la direction du syndicat. » Donc on s'est intéressé à elle, on était là à voir ce qui allait se passer. Alors, et vu les rushs qu'on avait, on pouvait enchaîner donc là-dessus, et c'est pour ça que c'est parti sur Suzanne. Ça commence avec Suzanne, sur le mur, donc c'est Bruno Mel qui opérait, j'étais son assistant. Tout ce qui tournait sur Yema, c'est Bruno Mel qui l'a fait, et tout le restant, à 90%, c'est moi.
Nous ne pouvons pas accepter la division. Jusqu'à maintenant, nous avons décidé de la grève ensemble, nous avons exposé nos revendications ensemble, nous sommes allés discuter avec la direction ensemble, et nous devons continuer notre lutte ensemble. S'il y a un vote, il devra être fait ensemble.
C'est une Yema, votre montre ?
Ah non, pas du tout. C'est une Mati. Yema, c'est terminé. Depuis un certain nombre d'années, d'ailleurs.
C'était quoi votre travail, vous, à Yema ?
Alors, à mai 68, j'étais mécanographe comptable.
Suzanne Zédé.
D'ailleurs, c'était assez marrant, parce que quand on a décidé de faire grève, le patron nous a réunis et il a dit qui c'est qui veut faire grève. Alors, donc, il y a un groupe qui est parti d'un côté et j'étais la seule employée administrative à me mettre du côté des autres. Et on m'a dit, ah ben non, pas vous. Comme si quelqu'un qui bosse dans un bureau ne pouvait pas avoir les mêmes aspirations, enfin n'était pas considéré comme travailleur, entre guillemets, comme les autres, quoi.
Ça devait être dur, ça, au bureau
Ça a été dur après, oui. Après, surtout. Parce que c'est vrai que c'est facile quand on sent les gens isolés comme ça, de faire pression, quoi. Hein. D'ailleurs, bon, il y a eu pas mal de lettres qui retracent la période et c'est vrai que, oui, de toute façon, on sait, votre mari est militant à la Rodia, on sait. Bon, c'est vrai que, puis en plus, quand on a, j'avais quoi, 27 ans à l'époque, bon, on y va plein pot, quoi. Je veux dire, c'était la CGT, c'était le PC, c'était tout à la fois. Et bon, donc c'était facilement, j'étais facilement la cible, quoi.
Si tu vois, il y a une fois, à une réunion, il a dit, il disait qu'il ne pouvait pas augmenter les salaires parce qu'il fallait des prix compétitifs pour le marché commun. Alors il a dit qu'il fallait que les ouvriers augmentent leur productivité, que... Et donc, qui vivent avec les mêmes salaires. Alors moi, j'ai dit, ouais, vous dites qu'il faut que tout le monde fasse un effort et vous donnez deux efforts à faire, deux efforts de la part des ouvriers. Je dis, mais votre marge bénéficiaire, à vous, elle n'a pas bougé, quoi, enfin. Alors il m'a dit, mais madame, vous faites de la lutte de classe, vous faites de la politique, enfin.
Je vous dis, moi, ma vie de militant, j'ai découvert ma fille, elle avait 14 ans, quoi. L'autre avait 11 ans, je les ai découverts ensemble. L'autre était plus grand, le gamin, je l'emmenais souvent avec moi, J'ai découvert mes enfants comme ça. Quand avec du recul, ça me fait beaucoup de peine. C'est pour ça que je les gâte maintenant, quoi. C'est mon seul regret que j'ai de cette période. De pas être... D'ailleurs, ma fille ne sait pas l'activité que j'avais. Ben, ils étaient trop jeunes. Et ma fille s'est mariée avec un Suisse. Et un coup, en Suisse, ils ont passé, ils parlaient des grèves de Besançon. C'est ma fille qui est, même Besançon, on a regardé ça, elle disait à son mari, comme elle était du coin, puis elle dit, je vais enregistrer. Elle a enregistré, donc, classe de lutte. Elle m'a dit, mais c'est mon père.
Elle vous a reconnu?
Elle m'a téléphoné, mais tu nous joues des tours, là. Alors, c'est ça fait un peu mal au cœur que je raconte, parce que ça, un peu ambiloupé, là. Mais, j'ai jamais parlé de ma vie de militant, mes enfants. Je pensais qu'ils n'intéressaient pas. D'ailleurs, je les soupçonne de pas voter comme moi, quoi. Moi aussi, par esprit d'avoir été frustré par de leur enfance.
Ah, tu te dis, nom de Dieu, que la nature est belle. En fait, c'est la pellicule. Qui dévoile la nature. La pellicule dévoile la réalité. Quand elle ne dévoile pas la réalité, on dit que la pellicule est voilée. C'est tout. La pellicule est sensible. Nom de pellicule. Que la nature est belle. Alors celui qui tient le micro, s'il est sensible. Celui qui tient la caméra, s'il est sensible. Celui qui tient le micro, la caméra, il est sensible. Si tout le monde est sensible et que la pellicule est sensible, alors c'est la nuit, tu ne coupes plus rien.
Je crois que c'est la rencontre. La rencontre avec tous ces Parisiens. Je crois que c'est autant on aime avoir une caméra et filmer ou monter, mais je pense que c'était la présence des autres, de ces gens qui avaient déjà vu le monde d'une autre façon que nous, on ne pouvait le percevoir.
Comment ça ?
Ben oui, on était très crédules, on avait 25 ans, 30 ans, mais on était crédules par rapport à l'environnement international. On savait des choses, mais des choses qui nous étaient cachées. Il y avait tellement de non-dits. Et ces gens-là, ils avaient été, pour certains, en Union soviétique. Ils avaient vu les choses comme elles étaient. Ils avaient vu un peu ce qui se passait dans les pays de l'Est ou dans d'autres pays. Ils avaient vu la souffrance humaine, etc. Nous, on n'avait pas cette approche. Et c'est ça qu'ils vont nous transmettre. Et c'est ça qui va nous faire apparaître aux yeux des autres comme étant un peu en dehors. D'ailleurs, c'est ça qui va faire peur. Aux représentants de la CGT et puis du parti qui va faire peur à un moment donné. Ils vont un peu nous voir comme des gauchistes parce qu'on a l'œil exercé, on n'est pas dans un cadre, on n'est pas dans le dogme. Même, c'est pas que si on n'est pas dans le dogme, on y est, mais on essaie de s'en échapper. À travers nos réalisations, on s'en échappe presque.
J'étais bon, j'ai pas de cachet, j'étais aussi au Parti communiste à l'époque. Et le Parti communiste, quand on a fait ce classe de lutte avec la CGT, hein, nous ont sommé de quitter le centre culturel.
Ah bon?
Ah oui. On a eu des pressions pour quitter ce groupe Medvedkine en plein tournage. Hein. Ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs.
Mais qu'est-ce qu'on vous reprochait?
Eh ben, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'au centre culturel, il y avait toutes sortes de gens qui ne leur plaisaient pas. Qu'ils appelaient les gauchistes, les maoïstes, les trotskistes, le PSU, le PS, ils voulaient pas voir de ça, de CFDT non plus d'ailleurs. Il y avait des gens défauts, ils voulaient pas. Ils voulaient pas qu'on se mélange à ça. Et ça, nous, on n'a pas voulu, en démon, on ira au bout. Et comme je suis parti en 71, donc Medvedkine s'est dissous. Et c'était recréé par Paul Sepp, toujours, à Sochaux, en 71. C'est Sochaux qui a repris le groupe Medvedkine.
Qui finançait tout ça? Comment vous trouviez l'argent?
Nous, on n'a pas donné un centime. De toute façon, on n'avait pas les moyens de le faire. Qui a donné l'argent? Il n'y a pas d'argent, finalement. Personne n'a donné d'argent. Mais tout le monde a donné des moyens. Caméra, Nagra, pellicule. Parce qu'en 68, vous connaissez... Alors lui, avec ses copains, il nous a amené la pellicule qui arrivait de l'RTF. Donc la pellicule, on l'avait gratos. Et il y avait tous des gens qui travaillaient bénévolement le soir dans les studios en cachette, qui développaient, qui montaient, tout ça. On a monté le film dans la cave de la Maison du Peuple à Besançon.
Tout un réseau de solidarité chez les techniciens, oui. Enfin, certains.
Puis bon, il y en a aussi René Vautier, je ne sais pas si vous connaissez René Vautier. C'est un précurseur aussi dans ce genre de... Et surtout que, bon, après une même discussion, en discutant, lui qui a filmé en Algérie, il était... Moi, j'étais d'un côté, il était lui de l'autre avec sa caméra. Et j'ai forcément tiré dessus. On avait un sérieux accrochage, et puis lui filmait de l'autre côté avec les rebelles, et nous, on accrochait avec eux, et ce qu'on appelait accrocher, c'est ce que ça veut dire, et lui, il était là ce moment-là. Il a été blessé ce jour-là, parce qu'il a toujours un bout de caméra dans la tête, dans les boutiers, qui n'a jamais été enlevé. Une caméra qui a giclé, il y a un morceau qui est rentré dans le cou, je crois, je ne sais plus à quel endroit, dans le crâne, et le morceau de caméra est toujours dans le crâne. Et là, c'est comme ça qu'on s'est pris d'affection tous les deux, parce qu'on n'était pas du même côté, mais finalement on s'est retrouvés après du bon côté les deux. Et...
Pour tout vous dire, on a fait des films qui étaient critiqués par le PC
Bruno Muel.
Officiel, par les dirigeants, parce qu'ils les trouvaient complètement gauchistes, et qui étaient critiqués par les gauchistes parce qu'ils les trouvaient complètement orthodoxes. En fait, on n'était pas orthodoxes. Et je crois que c'est la qualité de ces films, d'ailleurs, c'est qu'ils ne sont pas orthodoxes. Ils sont d'ailleurs très différents les uns des autres.
Alors, il y a eu deux groupes, Medvedkine, le groupe de Besançon et puis le groupe de Sochaux. Et vous n'êtes pas intervenu de la même manière à Besançon et à Sochaux, je crois, non?
Oui, tout à fait. Moi, je suis intervenu beaucoup plus à Sochaux. Hein. Disons qu'à Sochaux, j'ai pris un peu la relève avec Paul Sepp. C'est quand même la personnalité de Paul Sepp qui nous a entraînés. Et les jeunes de l'usine... qui en plus avait fait une grève assez sauvage, une grève qui n'était pas du tout encadrée au départ, des ALTM. La grève des ALTM, c'est les foyers, ça correspond à Sonacotra ou ces trucs-là, c'est des logements de travailleurs immigrés en général, mais là-bas, à l'époque, les immigrés, c'était des immigrés de l'intérieur, ils venaient de Bretagne, d'Avignon ou de je ne sais pas où. Et on les logeait dans des foyers où il y avait une discipline qui appartenait à Peugeot. Et Peugeot voulait faire régner une discipline comme dans l'usine. Et ils se sont révoltés, ils ont fait une grève qui a été un succès, une réussite formidable. Ils ont obtenu beaucoup de choses. Et c'est au moment où Paul Sepp arrivait là-bas à Sochaux. Et il m'a téléphoné en me disant, ils ont fait une grève formidable, il faut qu'on fasse un film là-dessus. Et c'est là que je lui ai dit, mais faire un film c'est bien joli, mais on ne l'a pas filmé cette grève, il n'y a pas d'image. Et il me dit, oh, c'est pas grave, les copains, les jeunes là, ils disent qu'on va rejouer tout ça. C'est comme ça qu'est venue l'idée d'avoir des scènes jouées. Et ensuite, ils ont rejoué plus que ça, puisqu'ils ont rejoué le travail dans l'usine, dans laquelle on ne pouvait pas entrer.
Vous trouverez à notre rayon loisirs le manuel du parfait petit emboutisseur, les secrets du montage à la chaîne comme si vous y étiez. Faites participer vos enfants à ces jeux éducatifs et d'avenir. Faites-leur construire une véritable chaîne de montage avec nos modèles réduits de 204, 504 voitures de police. Participez à notre grand jeu révolutionnaire. Faites-vous-même votre barricade avec nos pavés en caoutchouc. Bien entendu, tous ces articles bénéficient des timbres ristournes.
On n'a jamais eu, nous, empoigné ni la caméra, ni le son. On n'a pas voulu ça.
Christian Corrouge.
On était là pour écrire une espèce de scénario commun avec des gens, mais on laissait faire les professionnels. Je crois qu'à un moment donné, on disait qu'ils travaillaient mieux que nous et qu'on n'avait pas envie de se faire chier à manipuler tout ce matériel puisqu'ils savaient le faire, autant pas perdre de temps. Enfin, pour nous, c'était une autre logique complètement à celui de Besançon qui a vraiment envie de s'accaparer les choses et de faire du cinéma avec pour eux. Nous, on pensait plutôt que l'alliance avec les techniciens du cinéma était préférable. On savait ce qu'on voulait. Par contre, la façon de le dire, ce qui donne dans Weekend à ce show, d'ailleurs, c'est des espèces d'air de liberté quand même de ton, justement parce qu'on avait 20 ans et qu'on n'avait pas un fil à la patte quelque part. On n'était pas encore dans cette structure-là. Hein, c'est... Et puis, il y a ce dynamisme quand même d'écriture de scène où c'est différent. Quoi. Je vois Besançon, c'est surtout... En fait, ça se limite à... Gentiment, je dis, parce que moi, je suis très ému hein, quand je vois ces films avec les Vromont, Traforetti, etc. J'ai un souvenir inoubliable de ces mecs, hein, parce que c'est quand même... c'est tellement essentiel d'un jour de parler le même langage et de dire l'essentiel. Que... Mais en même temps, c'est la prise de parole, c'est la discussion sur la table... avec la femme qui sert le café, qui prépare le casse-croûte, etc. C'est gentillet, mais ça fait le héros s'en va à l'usine, quoi. Bon, alors que dans Weekend à ce show, c'est pas des héros. Et on se pose simplement la question comment on pourrait faire pour changer le monde. Il y a l'acceptation du rôle social d'ouvrier qui revêt à la limite l'habit du père, hein, qui prend les outils avec le bleu de chauffe du père sans aucun problème, en disant bon, t'as commencé à ouvrir une brèche dans ces fameux règlements intérieurs, dans ces législations du travail, dans ces salaires, etc. Eh ben nous, on y rentre pour continuer à changer les choses. Mais en plus des 40 heures ou de la retraite, on veut encore plein d'autres choses. Et pourquoi qu'on ferait pas notre propre cinéma, etc. Et c'est là que tout part dans Weekend à ce show. C'est-à-dire, en aucun cas on conteste le travail, on veut faire changer le travail. On veut pas, on peut contester la fabrication des bagnoles comme elle est. D'ailleurs, je continue à la contester comme elle est faite. Par contre, je pense que le travail a quand même un rôle social pour tout. Je vois, moi, là, encore maintenant dans l'époque actuelle où on parle beaucoup le travail, valeur, machin, truc, un grand débat, faut-il travailler, faut-il pas travailler, là c'est tout le discours de Charlot, là, de Pierre Carle, là, bon, qui récupère d'ailleurs des films de Bedvenkin pour truander et mettre simplement des extraits qui l'arrangent. Je lui en veux beaucoup parce qu'on coupe pas un texte.
À quel texte vous faites référence?
Le texte des mains dans Avec le sang des autres. Quand je l'offre à Bruno Noël, je l'offre pas à Pierre Carle pour qu'il en fasse un truc complètement taré par rapport à un travail ou pas. Quelque part, ça me gêne considérablement. Je sais pas, on n'a pas traversé les mêmes choses, Pierre Carle et Bruno Noël et moi. Je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est pas le même feeling, là. On peut discuter. Mais c'est pas la même lutte. Moi, j'y peux rien. Moi, j'en suis encore à Castro ou à Che Guevara. Lui, il a un petit bien ailleurs. Mais c'est son affaire de bobo. Moi, pour l'instant, je touche mes 10 000 balles par mois et je vais travailler de nuit à l'usine et c'est pas lui qui va à ma place.
Devant nous, il n'y a rien. Il n'y a rien. La promotion, non, il ne faut pas y compter. Tout ce qui est dur, en fin de compte, c'est d'avoir un métier dans les mains. Moi, je vois, je suis ajusteur. J'ai fait 3 ans d'ajustage. Pendant 3 ans, j'ai été promu à l'école. dans mon CET. Et puis, qu'est-ce que j'en ai fait? Au bout de 5 ans, je ne peux plus me servir de mes mains. J'ai mal aux mains. J'ai un doigt, le gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je ne peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. Ils ont bouffé des mains. J'ai envie de faire un tas de choses. Et puis je me vois maintenant avec un marteau, je sais à peine mon cerveau. C'est tout ça, tu comprends? T'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne pour nous. C'est dur de... Quand t'as pas parlé pendant 9 heures, t'as tellement de choses à dire que t'arrives plus à les dire, que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis, tu bégayes, tu t'énerves. Tout t'énerve, tout. Et ceux qui t'énervent encore plus, c'est ceux qui parlent de la chaîne. Puis qui ne comprendront jamais que tout ce qu'on peut en dire, que toutes les améliorations qu'on peut lui apporter, c'est une chose, mais que le travail y reste. C'est dur, la chaîne. Moi, maintenant, je ne peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. La peur qui mutile encore davantage. La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet.
Moi, je suis rentré ici, je suis arrivé ici en 69, en sortant de l'école, donc. J'avais passé un CAP d'ajusteur dans un CET, et à Cherbourg, et donc je suis arrivé directement, par le biais des petites annonces à l'époque et des sergents recruteurs dans les différentes écoles, où Peugeot cherchait de la main-d'œuvre. Il n'y avait pas que Peugeot à l'époque, hein. Il y avait Renault, il y avait Citroën, il y avait Moulinex à l'époque, toutes les boîtes d'ailleurs qui ont fermé, hein. Et donc, moi, je suis arrivé dans ces conditions-là, donc en 69, ici, et dans un foyer de jeunes travailleurs, mineurs, puisque notre majorité était à 21 ans. C'est important parce que c'est un déclencheur. Je pense que ce qui a beaucoup déclenché le groupe de jeunes travailleurs qu'on était, par exemple, pour trois quarts de la vie, je ne sais pas si vous avez vu, au week-end à Sochaux, c'était surtout ça, c'était... Foyer de jeunes travailleurs, 450 dans un même foyer, avec un salaire, pratiquement tous mineurs, en quête de majorité, assez vieux pour payer des impôts, pour se faire racketter sur le salaire au niveau des taxes, au niveau de tout ce que ça comporte, des mutuelles, des impôts locaux, etc. Mais mineurs pour au niveau des gens qu'on voulait recevoir dans nos chambres, l'accès au piôle, l'accès au vote, l'accès à la responsabilité politique ou syndicale. Et ça a été un déclencheur de tout, parce que le discours qui était tenu à l'époque, c'était encore maintenant d'ailleurs. Quand j'entends le discours de commémoration de 68, donc des 30 ans, hein, de Kouchner, Cohn-Bendit, etc., tous ces bien-pensants de la gauche très bourgeoise maintenant, disent que c'était parce qu'il y avait dans les foyers étudiants, il n'y avait pas le droit de faire venir des copines, des copains, etc. Ils ignoraient totalement que dans les foyers de jeunes travailleurs à la même époque, il y avait exactement le même problème et que personne n'en a parlé. Il y avait un sentiment de très fort, de révolte, de dire non, on n'en veut plus ce qu'ont eu nos parents, et etc. Ouais, et c'était... C'était un peu ça, comme on l'a saisi, ce qui a permis de faire un groupe rapidement, qui est aussi disparu rapidement, hein, si on veut bien dans l'histoire et dans le temps, mais qui a permis de faire fonctionner des choses. En même temps, la CGT et la CFDT ont eu très peur de ces activistes gauchistes, comme ils les appelaient à l'époque, et donc ont essayé de canaliser tous ces jeunes dans des commissions jeunes, aussi bien CGT que CFDT. Donner une espèce de petite semblant de liberté, en même temps pouvant les contrôler. Et donc on était tous plus ou moins là-dedans. Et c'est là-dedans, se sont créés, en fait, c'était les groupes de Sochaux, s'est créé dans ces gens-là, dans ce collectif de syndiqués, quoi. CGT ou CFDT, d'ailleurs on faisait beaucoup, pas tellement le... C'était pas marqué de la même façon, la CFDT à cette époque-là était plutôt sympa, je veux dire, n'était pas ce qu'elle est devenue. était à la limite beaucoup plus rêveuse et beaucoup plus utopique que la CGT à l'époque, et c'était même plutôt plaisant. L'utopie était du côté de la CFDT, n'était pas du côté de la CGT. On avait des mecs très stables encore à l'époque. Quand même.
Bon, alors j'ai 17 ans, je travaille au Ravi qui est géré par Peugeot à 80%. Alors, comme je suis une gamine, j'ai pas le droit de faire de politique, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de me défendre, je dois m'écraser, fermer la gueule et me laisser faire. Alors je travaille, je fais 51h30 par semaine et j'ai à peu près 60 000 balles dans le mois. Et je dois donner 36 000 balles de pension au foyer LPM où je loge, qui est encore géré par Peugeot. Ça fait que ma paye, je la redonne à Peugeot, quoi. Il y a aussi les caissières sont obligées de faire ouvrir les sacs aux clients pour voir s'il n'y a rien dedans. Elles se font engueuler par les clients, elles se font engueuler par le patron si elles ne le font pas. En même temps qu'on va et qu'on met la marchandise au rayon, on doit surveiller ce que les gens font. Et si on arrive à choper des gens en train de voler, on va le dire au patron et le patron donne des récompenses, quoi. C'est une façon d'acheter les vendeuses et de les pousser à jouer les flics. Dans les réserves, c'est pareil, il y a des courants d'air, il faut toujours mettre des pulls, des gilets, puis on n'a pas de liberté de mouvement, quoi. Surtout aux légumes, on doit décharger des cajots qui pèsent des fois vachement lourd, qu'on n'a pas la force de les décharger. On doit traîner des chariots de 300 kg des fois toute seule, quoi.
Et toi, est-ce que tu as déjà mené une action pour améliorer tes conditions de travail
Bah oui, j'ai tiré un tract. Alors vu que j'étais sous contrat de 3 mois, le contrat va expirer, ils vont pas me réembaucher, quoi. Enfin, c'est vraiment dégueulasse leur truc de contrat. Parce que de toute façon, ils prennent des filles la plupart du temps à moins 18 ans, quoi. Alors on a un rabattement du salaire et quand le contrat expire, ils en embauchent les autres.
Après 68, le comité d'entreprise de Sochaux, qui était à majorité CGT-CFDT, décide d'acheter une maison qui est située Clermoulin, qui est située entre Besançon et Montbéliard. Donc c'est une grande bâtisse, un vieux moulin, avec beaucoup de terrain autour, pour en faire un centre de loisirs, pas trop loin de l'usine, et en même temps où on proposerait, nous militants, sur action bénévole, des actions culturelles et économiques, à savoir actions économiques, à savoir des repas pour le dimanche, pour que les familles qui habitent dans les blocs puissent venir bouffer, mais ne pas bouffer bêtement et sur un terrain de camping, mais puissent aussi accéder à d'autres formes de... Alors bon, la photo, le cinéma, le théâtre, etc. La musique, il y avait tout un ensemble qu'on ne savait pas trop comment cerner. Donc on a acheté cette maison-là, et puis après on a mis un gérant. Et ce gérant était un ancien, un précurseur donc du groupe Benkin de Besançon, c'était Paul Seb. C'est un personnage haut en couleur, d'une tendresse et en même temps très pédagogue par rapport à des jeunes ouvriers comme nous qui étaient en quête de savoir. On parle toujours de culture comme si c'était quelque chose qui était inculqué dans l'enfance, dans les familles bourgeoises. Souvent c'est ça, c'est l'héritage culturel, ça arrive comme ça, on la bouffe. Mais dans les familles ouvrières c'est pas comme ça, on a une culture, oui, une culture d'origine, de classe, sans aucun problème. Par contre, l'accession à la littérature, l'accès à la connaissance de l'autre, comment vivre dans une société, comment débattre, comment argumenter, comment prendre la parole en public, comment... etc. C'est pas des choses qu'on apprend chez les ouvriers. Et donc, Paul a été capable de nous apprendre un maximum de choses en peu de temps, à quelques-uns, pour se sortir et ouvrir d'autres horizons. Et ces week-ends-là où on était très disponibles, parce qu'on s'emmerdait, et on a, pendant 3 ou 4 ans de notre vie, c'est vrai, passé nos week-ends à faire autre chose. Et après, c'est vrai que Paul Seb, en nous ayant fait découvrir le cinéma militant, mais aussi les gens qui le faisaient. Et je crois que c'est ça le déclencheur. Je m'en rappellerai toujours d'Antoine Beaufanti venant pour filmer chez moi donc à la ZUP et me demandant pendant des mois et des mois avant avec Théo Robichet, raconte-nous la chaîne, qu'est-ce que c'est la chaîne ? Et c'est une torture mentale de travailler en chaîne et de ne pas savoir comment la raconter à quelqu'un qui ne l'a jamais vue. Comment on peut raconter une chaîne ? On peut tout dire. Peugeot, lui, il a son discours écrit. C'est un élément tracté, composé de plus de 10 personnes. Et, c'est ça, une chaîne, quoi. Mais où on met l'humain là-dedans? Comment qu'on place l'humain? Comment qu'on place la revendication sociale? Et je dis pas syndicale, je la dis sociale. Dans le sens, comment qu'on fait vivre l'homme ou la femme dedans, sur cette chaîne? Comment? Quels sont les relais? Quelles sont les relations? Comment que ça va se mettre en place? Quel est le taux d'usure? Mais pas usure physique, mais le taux d'usure mentale. Est-ce qu'il va devenir un citoyen responsable, ou il va devenir une merde handicapée tout le temps de sa vie? Et c'est ça qui est l'enjeu. Et ça, je ne sais pas comment le raconter. Et il a fallu pratiquement donc 5 ans de merde, où on pose toujours la même question, pour qu'un jour, ça déclenche tout un processus chez moi, où je suis capable après de raconter. Mais c'est très compliqué. Et ces mecs qui, très intello, quoi, je veux dire, qui viennent te perturber, qui ne comprenaient pas et qui avaient envie de comprendre ce qui pouvait se passer dessus. Et ça devient une amitié complètement différente, quoi. Bon, c'est ça, le cinéma militant. Le cinéma militant, ou la démarche d'Aimé Venkin, moi, je dirais pas que c'est forcément du cinéma militant, je dirais simplement que c'est la découverte d'un monde avec un autre. Et le mariage de ce monde intellectuel avec ce monde ouvrier fait des réalisations possibles, avec beaucoup d'amitié, beaucoup de choses. Et le contraire est sûrement réciproque. Muel et Bofanti ne seraient pas ce qu'ils sont s'il n'y avait pas eu cette rencontre avec ce milieu ouvrier différent, avec des gens qui ont envie de se battre pour devenir des gens différents, avec une autre connaissance, avec une autre façon d'aborder les problèmes.
Morceau par morceau, nous le ferons. Non, nous ne rêvons pas. Nous ferons un monde. Non, nous ne rêvons pas.
J'avais été filmé en mai 68. Et d'ailleurs, il se passait pas grand-chose à Sochaux. C'était une usine occupée par un très petit nombre de militants. Et il y a eu ces événements surprenants du 11 juin 68, où une partie des ouvriers reprenait le travail, les autres ont redébrayé, après les événements de mai 68, en fait. Et la direction, le préfet, ont pris la décision de casser ça. Et ils ont envoyé des CRS, c'était pas les CRS, c'était les gardes républicains, je sais pas, et qui ont été d'une violence incroyable, et ça a failli tourner à l'émeute. Ils ont balancé des grenades offensives dans les pieds, il y a eu je ne sais combien de pieds, de jambes coupées, hein. Il y a eu 2 morts en tout, mais dont un qui s'est fait, un officier de police qui lui a tiré dessus, comme ça, à bout portant. Et on m'a toujours raconté, hein, que les anciens résistants qui avaient planqué des armes, les chasseurs, ont commencé à repartir chez eux pour revenir faire rentrer dans le tas. Et les flics ont compris ça. On les voit d'ailleurs dans ce qui a été filmé, ces images qui ont été filmées, pas par moi d'ailleurs. On voit qui se sauvent littéralement. Et ça a évité certainement un bain de sang. Mais ça a été déjà très violent.
Les seules images qu'on voit en fait de l'émeute, elles ont été filmées par qui?
Ah bah, c'est une histoire assez drôle. C'est un chauffeur de taxi qui n'était pas spécialement militant, mais ce jour-là, tout le monde était militant, ceci dit, d'une certaine façon. Il a vu ça et il a filmé ça de très près, d'ailleurs, en prenant des risques. C'est pas très bien filmé d'une certaine façon, mais on voit très bien ce qui se passe. Et alors, nos jeunes copains de Sochaux, ils ont dit, oh, mais ce film, ce qu'il a filmé, ils ont su qu'il avait filmé, ça appartient à la classe ouvrière. Alors, ils ont été le voir et ils lui ont dit, il faut absolument que tu nous passes ton film. Ils me l'ont amené, ils lui ont emprunté le film. Je l'ai refilmé en 16 mm sur un écran, ce qui fait d'ailleurs une image surprenante, hein, qui a un battement, parce que c'est pas une manière du tout professionnelle de faire les choses. Et c'est ces images qu'on a réutilisées. D'ailleurs, dans chaque film de Sochaux, pratiquement, on les a mis, parce que c'était pour nous tellement symbolique de la violence.
Une explosion qui s'est produite, hop, je me suis retrouvé en l'air, les 4 fers en l'air. Puis au moment de me relever, plus de pied. Je me suis aperçu que j'avais plus de pied. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis relevé quand même, puis je suis parti sur une patte, en sautant. J'ai fait jusqu'au feu rouge, là, jusqu'au feu de la bretelle, quoi. J'ai mis une quinzaine de mètres. Et puis de là, j'ai refait encore un autre coup, une explosion. nous ont renvoyé encore une gilet. Alors j'avais des éclats partout. J'en avais là, oui, sur quoi est-ce qu'il était là. Ils nous ont arrosé une deuxième fois, quoi. Alors c'est les secouristes qui sont arrivés, qui ont fait arrêter les CRS. Ils ont dit arrêter, laisser ramasser nos blessés, quoi.
Quand j'ai vu qu'ils commençaient à taper sur les ouvriers et tout ça, alors là j'ai donné un coup de main, quoi, autant dire. On se défendait parce qu'il fallait défendre déjà nos droits, parce qu'on se battait pas contre eux. On se battait contre les CRS, évidemment, mais c'était pas contre eux, autant dire. C'était contre le patron, quoi, le gouvernement, c'est eux qui les envoyaient, le patron, surtout Peugeot. Les femmes, les vieillards, tout ce qui passait, ils tapaient dessus, ils demandaient. Même les voitures qui étaient garées, hein, c'est pourtant pas des êtres humains, ils tapaient dessus. Hein. Ils mettaient des grenades dans les portes et puis tout. Hein. Alors là, quand on a vu ça, c'était normal qu'on se défende. Hein.
Alors, le premier film, 11 juin 68, qui revient sur ces événements violents, on l'a projeté dans ce fameux cinéma qui était sur la route nationale qui, à l'époque, traversait l'usine Peugeot. Il y avait une partie de l'usine à gauche, une partie à droite. Et puis, au milieu, il y avait un bistrot casse-croûte où les ouvriers se retrouvaient et un cinéma. Et le jour de la manif, que j'ai mis ensuite dans Week-end à Sochaux, le jour de cette manif, on a projeté notre petit film, notre petit court-métrage Sochaux 11 juin 68 dans le cinéma en face de au milieu de l'usine, quoi. Et on pensait qu'il y aurait une centaine de militants de base qui viendraient. Pas du tout, la salle était bourrée et on l'a passé en boucle, on l'a passé je crois 10 fois de suite. Et ce qui fait, c'est qu'on a été implanté, si vous voulez. À la fois, on était fiché par la direction, évidemment, mais en même temps, on était accepté. Et je crois que c'est aussi comme ça qu'on a pu faire ce travail, c'est parce qu'on était accepté par non seulement les militants, non seulement les jeunes qui bossaient avec nous, mais on était accepté par l'ensemble, quoi.
Mais en même temps, il n'y a rien à regretter, c'est... Je crois que ça fait partie, en aucun cas... Il y a peut-être qui ont regretté d'avoir fait ces films, mais moi, je n'ai jamais regretté. Jamais. Je crois que c'était le meilleur moment de ma vie. Ça le reste quand je les revois, avec des hauts, des bas, bon. Mais c'est vrai que mon copain Muel, ça reste un grand moment, quoi. Et que ça ressorte maintenant, ça fait un peu enterrement, quoi. C'est ça qui est gênant, quoi. Pendant très longtemps, on n'a pas parlé de ces films. Et brutalement, on en reparle. Alors, soit c'est vraiment la fin de la classe ouvrière. Et dans ce cas-là, c'est comme un peu comme les musées de l'automobile ou les musées des différentes usines, quoi, les friches industrielles reconverties en maisons de la culture. Hein, merci Martine. Ça fait comme qu'on voit un copain, quoi. Oh, il était gentil, il était bien, quoi. On dit pas, c'est un sale con, quoi. Il nous faisait vraiment chier, mais bon, c'est un peu ça, quoi. C'est...
Alors pour moi, l'avenir, c'est d'abord plus de chômage. Parce que le chômage, ça sert à rien. Et un ouvrier sans travail, c'est rien. L'usine, elle sera claire, vitrée, et il n'y aura plus de fumée, elle passera sous la terre. Le directeur, lui, il sera nommé par les ouvriers. Ça sera une élection ouverte à tous, sans distinction. P1, ingénieur, n'importe qui pourra y assister. Le directeur administrera, il ne sera pas payé. Il travaillera à la chaîne, à la fonderie, à l'embout. Il aura la paye d'un P2 si c'est un P2. Ensuite, les ouvriers, eux, auront une certaine production à fournir, mais ils la fourniront, ils seront plus contents parce qu'ils sauront qu'ils travaillent pour eux. Et ils auront moins d'heures, bien sûr. Pour la cité, il faut d'abord supprimer tout ce qui en est dit. Les fumées, les blocs, les cheminées. Puis ça sera remplacé par des petites maisons, des immenses jardins, de l'herbe, des arbres, puis des fleurs. Et n'importe qui rentrera dans n'importe quelle maison, il se retrouvera en ami, on l'accueillera en frère, ils l'aimeront n'importe qui. Et les portes seront pas fermées, il n'y aura pas de clé. Il n'y aura plus de voleurs, donc. Et il faut que les gens aient confiance et se fassent confiance. Et cette confiance sera accentuée par la suppression des frontières qui ne servent qu'à séparer les hommes encore plus, à les traiter d'étrangers, et la suppression de l'argent qui les rend avares, envieux et soupçonneux. Alors, voilà, c'est ce que je vois.
Annette Paléo.
Bon, l'histoire de la fumée qui passe sous la terre, je veux dire, moi, je trouve ça génial. Hein, je trouve ça encore génial, mais bon.
Quel âge vous aviez à l'époque de Week-end à Sochaux ?
14 ans.
On sait, en 71, ouais.
Oui. Mon papa était ouvrier chez Peugeot, il était OS, en fonderie, qui est une section de Peugeot qui a fermé d'ailleurs, qui était vraiment un endroit le plus pénible qu'il puisse y avoir au niveau des usines Peugeot, avec la chaleur, le bruit, enfin bref. Donc il était OS, il était cégétiste, il était communiste, et Clermoulin appartenait au comité d'établissement Peugeot, et mon père allait souvent à Clermoulin, m'emmenait, et moi tous mes week-ends, je pense de l'âge de 13 ans à l'âge de 18 ans, je les ai passés à Clermoulin, où lui faisait des frites, des sandwichs et paella, et puis à côté on faisait des films, quoi. On faisait tout ça à la fois. C'est vrai que ça peut sembler bizarre dans un centre loisirs qui ait eu des films qui se créent, mais c'était comme ça. Parce qu'en ce temps-là, et encore maintenant, la caméra et la culture, c'était les outils, comme on dit, de la bourgeoisie. Donc il fallait que les gens de la classe ouvrière s'approprient ces outils. Et ça, c'était une bataille. Bon, Paul Seb en parlait. Mais moi, j'ai... Enfin bon, je vais en parler de mon papa, parce que... Il faut que j'y vienne. Mon papa était émigré espagnol, émigré politique. Il est venu en 1946. Il a fui Franco, bien sûr, communiste et tout ce qui s'ensuit. Il s'est marié ici avec ma maman, qui était aussi espagnole, qui est aussi espagnole. Et il a eu 4 enfants. Moi, toute mon enfance, toute ma jeunesse, mon père disait « Bosse, fais des études ». Parce que si tu veux le mieux possible te battre pour tes idées, il faut que tu sois indépendante financièrement, il faut que tu aies un métier qui te plaise, et surtout que tu ne te retrouves pas à la boîte. La boîte, c'est Lucide. Donc, ça a été une bataille, mais moi, toute mon enfance, j'ai eu des disques de musique classique. Mon père, tout ouvrier qu'il était, lisait tout ce qui lui passait sous la main. Connaissait Brel, Ferrat, enfin je veux dire, on a été baignés déjà dans ça, nous, mes frères et sœurs. C'est pour ça que, bon, ben, on a suivi son conseil, on a bossé, et puis on n'a pas voulu aller à l'usine. De toute manière, ce qui était clair, c'est que les enfants de syndicalistes, en général CGT, n'étaient pas pris à la boîte, hein, ça, ils ne les embouchaient pas. Donc il fallait bien qu'on se débrouille. Quand on a fait ce film dans les années 70, il y avait ce qu'on appelle le plein emploi. Et je ne dis pas que ça permettait... Si, ça permettait... On se battait pour des besoins salariaux. Mais le besoin culturel faisait partie intégrante de ces batailles-là. Là, en ce moment, la bataille, elle est vraiment au niveau mon emploi, mon salaire, ce qui est logique.
Moi, j'aimerais savoir pourquoi il n'y a plus de groupe Medvedkin aujourd'hui, quoi. Pourquoi il y en a eu il y a 35 ans, pourquoi il n'y en a pas aujourd'hui.
Moi, je n'ai pas trop de réponses par rapport à ça. Pourquoi il a disparu? Ben, parce qu'on s'est tous un petit peu éclatés aussi. Hein. Bon, moi, en 74, je commençais mes études de médecine. Et puis après, la CGT et la CFDT ont perdu le CE. Donc, il y a eu moins de possibilités aussi de se retrouver. Tout a été bradé. Il n'y a plus de camp de vacances. Le CE n'est qu'un... fait des chèques vacances, quoi. Finalement, c'est plus... les colonies... Mes seules vacances, moi, quand j'étais jeune, c'était d'aller dans les colonies de vacances du CE Peugeot. Et je me souviens, d'ailleurs, quand je suis allée en colonie de vacances, je devais avoir 9 ou 10 ans, mon père m'accompagnait. J'étais dans le bus. La honte de ma vie. Et il criait tout fort en disant... Tu n'oublieras pas de dire à tes animateurs que c'est grâce au CE Peugeot que vous partez en vacances. J'étais sous mon manteau du master. On a des fois honte de ses parents. Mais bon, maintenant, a posteriori, je me dis, ben oui, il avait raison, on ne l'a pas assez crié en plus.
«
Le week-end à Sochaux a été vu à Sochaux, donc on l'a passé aux militants, enfin à tous ceux qui voulaient venir. Et en fait, les gens ont dit que c'était bien, mais sans plus, quoi, tac, terminé, soldé. C'était après 68, il fallait faire attention, il fallait ménager les susceptibilités jusqu'en 73-74. Il ne fallait pas dire que c'était de la merde, mais bon, c'était ça que ça voulait dire, quoi. Fallait, syndicalement, les gens n'appréciaient pas, quoi. Ils n'appréciaient pas parce que le film militant pour eux, par excellence, c'est le film où tu vois un permanent syndical parler. Il prêche la bonne parole, il est en mission, il prêche, et voilà. Puis les autres distribuent les tracts. Dans la mesure où c'est le contraire qui se produit, ça ne peut plus aller. Et donc, à l'époque, la CGT, mais la CFDT aussi, était quand même bien du haut vers le bas. C'était vraiment un système très, très autoritaire, et donc la décision a été prise qu'il ne fallait pas aller voir ça, donc voilà, il ne fallait pas aller voir ça, c'est tout. Voilà. Pour ce show, je parle. Hein. Avec le sang des autres, c'était pire que ça. Avec le sang des autres, il y a une. Le discours, c'était de dire. Pendant le débat, donc il était présenté au foyer de jeunes travailleurs à Bettencourt, et pendant le débat, donc un mec qui était envoyé par le PC a dit le mec qui parle de ses mains, il devrait être enfermé, il est fou. Carrément, hein, c'était ça. Il y avait un journal à l'époque qui s'appelait France Nouvelle, donc un journal du PC, qui a fait sa dernière page sur le texte en disant que c'était dégueulasse de parler comme ça de son intimité. C'était net, sans bavure, sans appel, donc film à pas voir. Pour la sortie d'Avec le sang des autres, c'était quand même après Septembre chilien. C'est un peu notre film, Septembre chilien, parce que c'est nous qu'on l'a financé. Hein, c'est très compliqué. Quand Muel est parti filmer au Chili, on avait reçu l'avance sur recette pour faire Avec le sang des autres. Et donc Mel n'avait pas de fric immédiatement en liquide, et donc nous a demandé l'autorisation de partir avec notre fric au Chili pour filmer. Et donc c'est un bébé, quoi, je veux dire, c'est quelque chose qui... Et puis pour moi ça reste un grand film, comme c'était très émouvant quand même, hein, de Septembre chilien reste un grand truc. Et donc il avait été très marqué et par ce qu'il avait vu là-bas, mais en plus par la réaction du PC, parce que dedans, dans Septembre chilien, il y a une phrase d'une nana du MIR, donc groupe gauchiste trotskiste du Chili, qui dit en France aussi vous avez un programme commun, mais faites attention parce que au Chili il suffisait pas de mettre le bulletin de vote, il aurait fallu le fusil aussi pour le défendre. Et d'ailleurs la nana a été flinguée 10 jours après, hein. C'est une horreur, hein. Et donc Marcher refusait qu'on voulait bien prendre le film à son compte si on enlevait cette phrase. Et personne n'a voulu enlever la phrase. On ne censure pas une chose aussi belle, dans l'horreur, hein, mais aussi belle que ça. Et vu que le PC voulait pas diffuser le film, on a décidé, nous, de faire une soirée solidarité Chili, donc c'était en 74, donc à la sortie du film, en pleine répression là-bas, hein, c'était une horreur. Et on a loué le théâtre de Montbéliard à notre nom, puisque personne ne voulait le faire. Ça veut dire qu'on était 6, on a fait chacun un chèque. Pour louer le théâtre, ça coûtait 6000 balles à l'époque, c'était cher, on n'avait pas ce fric forcément, donc on s'est mis à 6, même à 6 on n'est pas le fric. Et après ils nous ont enlevé nos carnets de chèques, alors on était quitte de louer des théâtres, ça se fait pas qu'on est prolo de louer des théâtres. Et donc on a appelé des gens, on a sorti nos tracts, nos affiches, on a appelé des gens au théâtre de Montbéliard. En fait on s'est retrouvé avec une séance à 1200 personnes, on était surpris parce que d'habitude on circulait plutôt à 15 qu'à 1200, quoi. Et on a récupéré notre blé qu'on avait mis en mise, les 6000 balles de location, et en plus on a fait une brique de collecte. Et donc ça a posé un problème par rapport au fonctionnement, qu'on est militant au PC, c'est ce qu'ils appellent non-respect du centralisme démocratique. Donc ils nous ont réunis et on a vu des mecs arriver qui ont voté l'exclusion à main levée. C'est une grande douleur, hein. C'est terrible, hein. Moi j'étais jeune, hein, j'avais 26 ans, 27 ans, hein. C'est une fracture, hein, d'avoir un père communiste, déporté communiste, de se retrouver dehors du parti. Tu le racontes à personne, hein, tu te sens, t'es sûr d'avoir raison, en même temps tu te sens honteux. À qui peut-on parler, à quel prolo peut-on parler que tu viens de te faire exclure par ton propre parti pour avoir loué un théâtre? Tu peux pas en parler, donc tu restes avec ta solitude qui est très pesante. Mais c'est compliqué quand t'as 25 ans, parce que tu quittes l'héritage familial en même temps. Pour moi, hein, pour moi, hein, pour d'autres c'est un peu différent, mais pour moi c'était une grande rupture. Je veux dire, mon père était encore vivant, je lui ai jamais dit, jamais. Jamais, je crois que c'était pas possible de pouvoir lui dire ça. Ça aurait pas été possible. Moi après, je devenais complètement fou, donc je voulais écrire. Et j'ai essayé, j'ai écrit à Bruno, et ça marchait pas. Après, il m'a envoyé un cassette. Et puis un jour, il a eu une idée. Il m'a dit, j'ai un copain qui est prof de socio qui déprime. Et les deux, ça devrait aller. Et donc, on a mangé ensemble et je suis devenu très ami avec donc un ami de Muel qui s'appelle Pialou, donc qui a écrit Retour sur la condition ouvrière. Et on a bossé ensemble depuis 78 jusqu'à maintenant, encore maintenant, on bosse ensemble. Et ça m'a permis d'avoir un relais par rapport à la... comment, je dirais pas un boulot intellectuel, mais avoir un échappatoire à l'usine, quoi. Je veux dire, une façon de s'échapper.
Moi, je dis, le problème pour moi, c'est que j'ai foutu le camp chez mes parents pour me sortir d'un truc. Et puis ce truc, j'y retombe jusqu'au cou, quoi. Parce qu'avec mes parents, je pouvais pas discuter. Je pouvais rien dire, je pouvais rien faire. Puis quand j'essayais de trouver un peu de soutien, bon, j'ai été gauchiste comme tout le monde. On a essayé de monter une troupe de théâtre et de mime, etc. On n'y connaissait rien, on s'est cassé la gueule. Alors si je disais à mon père, tiens, aujourd'hui ça n'a pas marché, il me disait, ben laisse tomber, puis arrête tes conneries. Puis avec Christian, c'est un peu pareil. Si j'ai dit qu'aujourd'hui, une séance photo, ça n'a pas marché, il me dit, t'as qu'à arrêter de faire ça, ça sert à rien. Bon, puis ce qu'il veut, même... il n'arrive pas à le définir, ce qu'il veut. Il attend le bonheur, mais le bonheur, on n'y croit plus de toute façon. Par morceaux, on y croit, c'est tout. Mais le socialisme, on n'y pense même plus, on n'en discute même plus. Et puis toi, tout d'un coup, t'arrives, faut dire ce que c'est que le socialisme. Qu'est-ce qu'on attend ? On ne sait même plus ce qu'on attend. Comprends, quand j'étais chez mes parents, je me disais, bon... je vais me tirer, je vais faire autre chose. J'avais 15 ans. À 16 ans, je me suis tirée, j'attendais vachement de trucs. Puis maintenant, je suis là avec un mec et puis une môme, puis j'attends plus rien. Je vois plus mon avenir, tu vois. Alors, de temps en temps, j'essaie de l'aider, mais je vois même plus comment je peux l'aider, lui. Mais c'est tellement dingue, là, la coupure qui est entre nous. Bon, à un moment donné, si je lui montrais une photo chouette ou un poème, il me disait, ouais, mais de toute façon, ça va rien apporter aux OS, ça. T'es toute seule à l'aimer, nous, on peut plus l'aimer. Alors, j'étais tellement toute seule à l'aimer que maintenant, bon, je lui montre plus et je lui dis plus rien. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, je me posais la question, bon, à quoi ça sert, quoi, qu'est-ce que je fais rien du tout.
Au fond, qu'est-ce que c'est le dernier film, d'ailleurs, avec Le Sein des Autres ? C'est un film sur la violence.
Comment échapper à Peugeot ?
C'est un film qui marque la fin de cette expérience. Hein. Et je me suis retrouvé très seul à le faire. C'est pour ça que, d'ailleurs, je l'ai signé, réalisation de Bruno Muel. Parce que ben, nos jeunes copains, ils étaient marqués par déjà 3-4 années de plus d'usine. L'époque n'était plus la même, je crois que 74-75, c'est la fin d'une époque, la fin de l'époque marquée par mai 68. En fait, j'ai arrêté avec Le Sein des Autres. C'est vrai qu'il y avait eu cette rupture, cette fin d'une expérience, cette fin d'une utopie, cette fin de quelque chose qu'on avait partagé à pas mal, finalement, assez nombreux. Et me lancer tout seul à faire des films d'auteur me disait, je préférais passer carrément au plus intime de l'écriture. Moi, au fond, tout ce travail m'a passionné parce que ce qui me choque le plus, c'est le gaspillage des intelligences. Et je pense que les intelligences gaspillées, il y en a vraiment des milliers, des milliards.
On m'appelle le vieux dans l'usine. C'est terrible de se faire appeler le vieux dans l'usine, mais c'est comme ça. Je veux dire, c'est vrai que ces intérims, ils ont 20 ans, ils ont 25 ans. C'est des gamins, ils sont tout maigres, ils sont tout en pleine formation. Et quand je les vois sortir, je me dis que moi, je marche encore plus vite en partant de l'usine qu'eux. Il y a un problème. J'ai pas connu ça quand j'avais 20 ans. Je les vois dépérir. Je me dis qu'une chose, c'est que soit ils font la révolution d'urgence et ils cassent tout et on change de système, ou sinon, à 40 ans, ces mecs-là n'existeront plus. Hein. On ne sait pas. Ça me paraît dramatique. Et en plus, ils ont amélioré encore le système, des contraintes qui sont très psychologiques, parce qu'en fait, ça n'a aucune valeur dans le travail, dans la pénibilité du travail. Mais psychologiquement, on le vit très mal. C'est-à-dire qu'avant, dans les ateliers, c'était des vieux ateliers où il existait un tas de tables, de bancs, de chaises, de machines à café au bord des chaînes, etc., où on pouvait avoir une vie un peu différente et donc se reconstituer quelque chose de différent avec d'autres choses. Et là, ils ont tout supprimé. C'est-à-dire, dans ces ateliers modernes, un ouvrier, il est là pour travailler, donc il n'a pas besoin de s'asseoir. puisqu'il a pour bosser. Donc on supprime les chaises. Et tous les placards, donc ce que les gars avaient un peu une vie individuelle, mais qui était la plus importante, c'est que le bord d'une chaîne, c'est très anonyme, le bord d'une chaîne. Sur une chaîne, t'as un numéro, il faut quelqu'un pour mettre telle opération. C'est, que ça soit Albert, Gaston ou Léonard ou Ahmed, ou ça n'a aucune importance. Il faut quelqu'un pour tenir le poste, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il n'y a aucune raison que cette personne-là, puisque le poste est de la merde, ait un endroit à lui. Donc ils ont supprimé tous les placards. Donc, et t'as plus le droit de mettre de sac, d'emmener de journal, ni rien. T'es payé pour travailler. On est dans une autre logique. Alors là-dedans, le système syndical ou le mode d'organisation, ben, il se modifie tous les jours. C'est, quand même, c'est pas simple. Moi, j'ai eu à la limite la malchance ou la chance d'être délégué dans les années 70 jusqu'en 85. Après tout, on avait un statut. Il était ce qu'il était, on en prenait plein la gueule, on n'a pas eu de promotion professionnelle, on n'a rien eu. Ceci étant dit, on avait au moins la reconnaissance des mecs qui bossent avec nous. Mais maintenant, les jeunes délégués n'ont pas ça. Et je dis toujours, un gosse qui est intérim, un délégué CGT qui va aller vers lui, qui va simplement discuter, lui demander si ça va, ce gars-là n'aura plus jamais une chance à l'embauche. C'est quand même, faut le savoir, dans le pays de la liberté, comme dit Chirac, là, Sarkozy, là, faut quand même savoir que c'est ça qui existe. C'est quand même comme ça, et quand on en parle comme ça aux gamins, ils sont aussi sensibles à ça, en condition que quelqu'un leur en parle, mais on parle de rien, on parle de rien dans cette société. Moi, je crois que les groupes Mevenkine ont été faits aussi pour, enfin, pour moi, à l'époque, si on se rappelle le début du siècle, le début des organisations syndicales, c'était quand même tout un discours. La classe ouvrière, à l'époque, et les syndicats étaient quand même très... très engagé dans la littérature, le tract, le journal, capable de faire un journal de gauche, même on aime ou on n'aime pas l'humain, mais c'est quand même quelque chose d'important dans la société du début du XXe. Les fameux tracts, je sais pas, c'était tout un contenu écrit ou les prolos écrivaient encore. Et puis il arrive l'heure de la télé où en fait tous ces politiques de gauche, parce que je veux parler des autres de droite, on les connaît, je veux dire, j'ai pas envie d'en parler, mais tous ces mecs de gauche passent leur temps à vouloir être sur un plateau de télé de la façon qu'ils seront le mieux filmés, plutôt que de se dire bon, est-ce que la télé c'est ça, ou est-ce qu'on ne doit pas développer une télé, alors se donner les moyens comme la presse de gauche avait été capable de le faire à une époque où la classe ouvrière au début du siècle de le faire, on se fait une télévision à nous. Et les groupes Mevenkine, c'était ça, pourquoi pas faire nos films, quoi. Et si la gauche n'est plus capable même de lutter, de le rêver, on ne demande même pas que ce soit fait, mais simplement qu'il y ait quand même un espoir, un rêve, une utopie. Non, râlez pas, crête. Quand est-ce que je peux passer à FR3? S'il a quelque chose vraiment à dire, il peut le dire autrement. Les uns des autres, en avant envie de faire une dénonciation vraiment de ce que c'est que du travail en chaîne. Et il a fallu trouver des images. Et donc l'Angleterre, à l'époque, rentrait dans le marché commun, et il y avait des copains de la BBC, on s'est arrangé avec, pour en leur disant, écoutez, on va envoyer une lettre à Peugeot pour lequel l'Angleterre rentre dans le marché commun, ce serait bien de bon ton quand les ouvriers anglais, les gens, les anglais voient une grande usine en France, et donc demande autorisation de filmer. Et Peugeot a répondu oui. Donc on a rencontré ces cinéastes à Orly, avec un plan de l'usine, et leur dire les coins précis où il fallait qu'ils filment. On s'est pas revus du tout. Ils sont restés là pendant 10 jours, on s'est pas croisés du tout pour éviter les fuites. Et arrivé à Orly, ils ont laissé les bobines. Et donc ça a donné donc à peu près 6 heures de rush sur l'usine, avec ce qu'on a voulu. Et alors, où c'était marrant ces rushs, c'est parce que là, c'était des professionnels, et on leur avait dit, en peinture, on avait des... En peinture, c'est toujours impressionnant à l'époque, parce que c'était très éclairé. Il y a le voile de peinture, la couche de peinture qu'on met sur la bagnole au pistolet, et puis derrière, il y a des contrôles, il faut que la peinture sèche, donc il y avait beaucoup de lumière, et ça donnait des images extraordinaires. Et il y avait des nanas qui contrôlaient des images, qui avaient des bagnoles, qui avaient des blouses blanches, qui étaient jeunes à l'époque, hein, et qui passait amoureusement bientôt les mains sur les carrosseries, et dans une lumière telle que ça devenait trop beau. Alors on a coupé tout ça, on voulait pas d'images belles pour contester le capitalisme international, crac. Il demandera un mail, c'était superbe, cette réaction des prolos qui était dit, on coupe, c'est trop beau.
Le code. conducteur, Antoine Bonfanti. À l'image, le passager de l'arrière, José T. Et à la place du mort, Michel Desroy.
Et aussi au micro, Georges Binetruy, Christian Courrouge, Bruno Muel, Annette Paléo, Inger Servolin, Henri Traforetti, Suzanne Zédé. C'était Les groupes Medvedkine, une histoire de cinéma militant. Une émission d'Yael Mandelbaum, réalisation Anne Fleury, prise de son Isabelle Limousin, mixage Pascal Bénard.
Mais faire un film, c'est pas seulement filmer, entasser des bobines de pellicule. On n'apprend pas à se servir d'une table de montage, on n'apprend pas à tourner une interview synchrone en quelques heures. Au fur et à mesure que nous avancions dans la fabrication de notre film, nous nous rendions compte qu'il nous serait impossible de nous passer des techniciens du cinéma. Et nous avons appris des choses. Par exemple, que le militantisme n'est pas l'apanage de la classe ouvrière. Que des opérateurs, des monteuses, des ingénieurs du son parmi les plus grands sont prêts à travailler avec nous pour des clopinettes. Ils sont venus et ensemble nous avons fait le film. Avant, ils étaient quelques-uns à penser qu'il fallait travailler pour nous. Nous étions quelques-uns à penser qu'il faudrait qu'on s'en sorte sans eux. Aujourd'hui, nous savons que le cinéma militant ne peut naître que de la collaboration de militants ouvriers et de cinéastes militants.
Cette émission a été diffusée la première fois le 27 juin 2007 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.